présente Parc Avenue Summer de René Rosen. Lu par Anne-Sophie Nalino. À mes filles, Sarah Gruen, Brenda Clem, Mindy Mailman et Pam Rosen. Je vous aime toutes. Prologue 2012. Une brise entre par les fenêtres ouvertes, agitant lentement, indolemment les rideaux. C'est le mois d'août et il fait déjà très doux en ce tout début de matinée. Assise à la table de la cuisine, je regarde un rayon de soleil zébrer le journal et réchauffer le dos de mes mains pendant que mon café refroidit. Traverser la pièce pour m'en servir un autre me semble soudain un effort insurmontable et je ne peux que fixer le titre sous mes yeux en éprouvant une douleur lancinante dans la poitrine. La nouvelle est annoncée par le New York Times. Mort d'Hélène Gurley Brown, rédactrice en chef iconique du magazine Cosmopolitan, à l'âge de 90 ans. L'article tente de dresser son portrait, de rendre hommage à la femme qui a donné à toutes les filles célibataires le droit de prendre part à la révolution sexuelle, celle qui a ressuscité un magazine moribond et révélé au monde entier une créature merveilleuse, la Cosmo Girl. Quelques paragraphes plus loin, l'auteur mentionne des féministes pures et dures, comme Betty Friedan et Gloria Steinem, en évoquant le rôle controversé d'Hélène Gurley Brown dans le mouvement de libération de la femme. Tout est là. Et comme il s'agit du Times, je suis sûre que les faits présentés par Margalit Fox sont exacts. Mais l'histoire d'Hélène ne se résume pas à ça. Seule une poignée de privilégiés sauront jamais tout ce qu'il y avait derrière. Une phrase me saute aux yeux lorsque je parcours de nouveau brièvement la nécrologie. Hélène Gurley Brown avait 90 ans, mais était beaucoup plus jeune par certains aspects. Je ne peux m'empêcher de sourire en passant mes doigts sur la photo qui accompagne ces mots. C'est un cliché en noir et blanc pris en 1965, peu de temps après son arrivée à la tête de Cosmopolitan. Assise à son bureau, un crayon à la main et des papiers étalés devant elle, Hélène y pose dans une robe à imprimé léopard. Sur le côté, à la limite de la zone de fond perdue de l'image, je distingue une jeune femme. Sa silhouette a été à moitié coupée lors de la mise en page, mais je reconnais le motif géométrique de sa robe et un petit bout de son visage, un œil, le nez et le coin de sa bouche, ainsi que les fines mèches de cheveux qui effleurent son col. Cette robe m'est très familière, et cette femme encore plus. C'était moi il y a 47 ans. Chapitre 1. New York, 1965. J'avais tant plié et plissé ma carte du métro ces derniers jours qu'elle était à deux doigts de se déchirer. Sans que je sache comment, j'étais montée dans la mauvaise rame. Une fois de plus. J'avais atterri à Times Square au lieu de la 57e. Ok, et maintenant ? Je sortis de mon wagon, fis quelques pas hésitants et me figeai sur le quai, au milieu du flot des voyageurs qui heurtaient mon portfolio en me contournant, faisant bouger les photos à l'intérieur. Une jeune femme vêtue d'un sari rose et jaune doré appela un petit garçon qui courait devant elle. La station Times Square était un labyrinthe de couloirs et de tunnels carrelés, d'escaliers menant d'un niveau grouillant de monde à un autre. Une forêt de panneaux m'entourait. Uptown, Downtown, Bronx, Brooklyn, 8e avenue, 40e rue. Je n'étais pas assez en avance pour prendre le risque de me tromper encore de métro. Je repliai ma carte, la rangeai dans mon sac à main et me dirigeai vers la sortie de la 42e où je fus accueilli par un concert de klaxons et un nuage de gaz d'échappement. Planté sur le trottoir, je me sentis aussi désorienté qu'à l'intérieur de la station, mais également enivré. À l'image de cette ville, j'étais vivante, prête à saisir les 1000 opportunités et aventures qui s'offraient à moi. Tout pouvait arriver. Ma vie était sur le point de commencer. N'ayant encore jamais hélé de taxi, je restais un instant paralysée, tout juste capable d'observer la technique des New-Yorkais, comme cet homme d'affaires qui leva imperceptiblement la main, juste de doigts. Un autre, avec sous les yeux des cernes semblables à des bajoux, cria « Taxi !» d'un ton aussi autoritaire qu'un chauffeur coupa deux voies de circulation pour piler devant lui dans un crissement de pneus. Et voilà le travail. À côté de moi, une femme en fit surgir un en agitant la main à la manière d'une baguette magique. J'imitais son geste avec hésitation, en bonne novice que j'étais. Deux taxis passèrent en trombe sans paraître me voir. Heureusement, le troisième daigna s'arrêter. J'indiquai l'adresse au conducteur pendant qu'il écrasait son klaxon et repartait en ne laissant presque aucun espace entre son pare-choc et celui du véhicule qui nous précédait. Nous étions l'un des maillons d'une longue chaîne de taxis jaunes roulant à vive allure vers nulle part. Je regardai l'heure sur le tableau de bord. « J'ai un rendez-vous dans 20 minutes, » dis-je au chauffeur à travers la paroi de plexiglas trouble qui nous séparait. « Pensez-vous qu'on y sera à temps ?» Il me jeta un regard impatient dans son rétroviseur. « Vous auriez pu y aller à pied, ma petite dame, » dit-il avec un fort accent de Brooklyn. Je m'adossai à la banquette et essayai de me détendre, serrant contre moi mon portfolio. Une simple chemise faite maison qui se composait de deux couvertures cartonnées fermées par un ruban noir et qui protégeait mes photos, toutes collées sur des feuilles de papier à gros grains. C'était une journée ensoleillée, très chaude pour la saison, et le chauffeur avait baissé les vitres de la voiture. J'inspirais profondément sans parvenir à identifier l'odeur ambiante jusqu'à ce que je m'aperçoive qu'elle était en fait la somme de tout ce que je ne sentais pas. L'herbe, les arbres, le vent dans les grands espaces. Bloqué par les immeubles, l'air semblait stagnant, presque rance, alors même que cette ville était toujours en mouvement et débordante d'énergie. À l'angle de la 47e et de la 8e avenue, un couple attendait de pouvoir traverser. Ils me firent penser à d'autres couples que j'avais vus dans des films. L'homme portait un costume sombre et un chapeau légèrement incliné sur la tête, comme Sinatra. La femme était impeccablement vêtue d'une jupe et d'une veste assortie ceinturée à la taille. Son compagnon prit deux cigarettes dans sa poche de poitrine et lui en offrit une, qu'il alluma d'un air charmeur. Tandis que de petits nuages de fumée se formaient au-dessus de leur tête, le feu des piétons passa au vert et ils s'éloignèrent. Je les suivis du regard jusqu'à ce qu'ils disparaissent au milieu de la foule des New-Yorkais. Quel dommage que je n'aie pas eu mon appareil photo avec moi. On ne croisait pas de gens comme ça dans l'Ohio. Mon taxi franchit l'intersection et un vertige me saisit à l'idée que j'allais bientôt prendre place parmi les habitants de cette ville, marcher avec un but en tête et me rapprocher à chaque pas de tout ce que j'étais venu chercher ici. L'image de ma mère s'imposa à moi. Une image douce amère. Elle aurait dû être à mes côtés à mon arrivée à New York, et je n'étais pas de celles que les pensées éthérées peuvent réconforter. Tous ces « elle est toujours avec toi, elle veille sur toi ». Durant tout le trajet, je ne cessais de tendre le cou, désireuse de ne rien rater du paysage urbain. Il y avait plus de choses à observer ici le long de deux pâtés de maisons que dans tout Youngstown. Je me penchai afin de mieux voir un panneau géant sur lequel un homme fumait une camelle en soufflant des ronds de fumée. Times Square tout entier aveuglait les passants de ses publicités lumineuses pour Canadian Club, Coca-Cola, Chevrolet et les téléviseurs Admiral. Même en plein jour, des lumières clignotaient au fronton des cinémas, qu'ils soient respectables ou qu'ils fassent la promotion de peep show et de films pornographiques avec des femmes nues. Une fois de plus, l'envie me démangea de prendre des photos. Même quand je n'avais pas mon appareil, je continuais à l'utiliser mentalement. J'avais déménagé à New York pour devenir photographe contre la volonté de mon père et de tout mon entourage, dont le rédacteur en chef du Youngstown Vindicator, qui soutenait que ce n'était pas un métier pour une femme. Réaliser des clichés personnels comme le faisait ma mère était une chose, mais des photos professionnelles pour des journaux et des magazines, impensable. Dans une petite ville, peut-être, me disais-je. À New York, certainement pas. Et savoir qu'on ne me croyait pas capable de réussir ne faisait que renforcer ma détermination. J'étais têtue, encore un trait de caractère que je tenais de ma mère. Parce que mon père et Faye, sa nouvelle femme, avaient décidé qu'ils ne financeraient pas cette lubie ridicule. J'avais d'abord été dactylo dans une aciérie pendant 3 mois à la sortie de mon école de secrétariat. Cela m'avait permis d'économiser $375. Le compteur du taxi affichant déjà 90 cents, je n'irai pas très loin avec cette somme. Ma priorité était de trouver un travail, quel qu'il soit.